France Inter, il est 13h. Le journal Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, aucune peine d'inéligibilité requise contre Jean-Luc Mélenchon. 3 mois de prison avec sursis, c'était il y a quelques minutes réquisitoire. Nous allons au tribunal de Bobigny dans un instant. Des îles Vanuatu à Bayonne en France, de Sydney à New York. Une nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse pour le climat a commencé sur la planète. Tour du monde des manifs et nous serons en direct du défilé parisien avec Sandy Dauphin avant de retrouver Mathieu Vidard, lui aussi en direct de la place de la Nation à 13h30 pour la Terre au Carré. Quand le monde du rugby se met à parler japonais, c'était il y a quelques minutes.
Je déclare la Coupe du Monde de rugby 2019 Japon ouverte.
Le 9e mondial de ballon ovale a donc commencé. Japon-Russie en ce moment à Tokyo. France-Argentine demain matin, déjà du lourd pour les Bleus. Dans l'actualité encore, l'agenda du gouvernement pour les petites communes rurales. Une série de mesures présentées pour sauver les commerces et aider la jeunesse. Nous en parlons avec l'invité du journal de 13h. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Dans l'actualité également, la commission de lutte contre la pédophilie dans l'Église catholique a beaucoup, beaucoup de travail.
Près de 2000 témoignages récoltés en seulement 3 mois partout en France.
A tout à l'heure pour les détails, Julie, dans la partie magazine de ce journal. Les retrouvailles avec Stéphane Escher, nouvel album avant un concert bientôt sur France Inter. Et puis notre rendez-vous du vendredi, j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, Stéphane Conchon et les vendanges, ça peut être lourd une caisse de raisin.
Cette caisse-là, par exemple. Ah oui, non mais attendez. Il faudrait que je l'ai sur l'épaule, celle-là.
Oui. Là. Voilà. Donc ça, jusque-là, tout va bien.
Et d'accord. Et c'est ça que vous appelez de la promenade, alors?
Bon, il s'en est sorti. Il sera en direct de Dijon avec nous tout à l'heure, Stéphane. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
Et donc, direction tout de suite le tribunal de Bobigny. Nous allons parler du réquisitoire qui vient d'être prononcé contre Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches pour acte d'intimidation envers un magistrat, rébellion, provocation. C'était la perquisition très mouvementée il y a près d'un an au siège de la France Insoumise. Le procès et le réquisitoire il y a quelques minutes contre l'ancien candidat à la présidentielle sont requis. 3 mois de prison avec sursis, 8000 euros d'amende, aucune peine d'inéligibilité. C'est ce qu'il retient à la sortie du tribunal.
On a monté un procès immense qui a fonctionné exclusivement sur les images d'une émission de divertissement. Et au bout de 2 jours, le procureur lui-même reconnaît que, au pire des cas, il y a outrage. Alors on m'a décrit, ainsi que mes camarades, comme des gens qui ne respectaient pas la loi, qui avaient provoqué une émeute, une rébellion, blablabla. Eh bien, si nous étions tout ça, il fallait demander notre inéligibilité. C'est-à-dire dire ces personnes ne sont pas dignes d'occuper ce mandat. Et qu'est-ce qu'on demande à la fin? De l'argent. De l'argent, encore de l'argent. Pour celui-ci, pour l'autre, pour l'État. De l'argent, c'est tout ce qui les intéresse.
Voilà pour les propos de Jean-Luc Mélenchon, vraiment il y a quelques minutes à la sortie du tribunal. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Vous suivez ce procès depuis hier pour France Inter. On rappelle donc le réquisitoire. 3 mois de prison avec sursis, 8000 euros d'amende et aucune peine d'inéligibilité.
Oui, des réquisitions relativement faibles puisque les faits pour lesquels comparaissait Jean-Luc Mélenchon sont en théorie passibles de 10 ans de prison. Pour son avocat, elle donne l'impression d'un pchit moins impressionnant, dit-il, que ce qu'on nous a présenté en face. La sévérité du réquisitoire laissait effectivement présager des demandes de peine plus lourdes. D'entrée, la procureure évoque un procès hors norme, tout simplement parce que l'ensemble des faits a été filmé. Ce qui est reproché à Monsieur Mélenchon, ce n'est pas l'expression d'une colère, d'une opinion, dit-elle, mais d'avoir fait obstacle à la justice. Elle insiste sur la fonction politique des prévenus, s'interroge comment expliquer à nos concitoyens demain que eux vont devoir respecter les lois alors que les députés qui les ont conçus ne sont pas condamnés. Le ministère public précise qu'une simple attitude peut constituer un acte de rébellion d'un point de vue juridique, sous-entendant que cette attitude est bien celle qu'ont eu les élus. Son collègue, lui, digère mal les accusations de connivence politique. Certains pensent que nous sommes des espèces de pantins téléguidés, regrette-t-il. Au vu des peines, il semble que son réquisitoire était finalement plus une forme de mise en garde, un rappel envers les élus, ou alors la tentative de trouver un équilibre, préserver une décision de justice tout en affaiblissant les accusations de complot politique.
Merci Ariane Grissel. Ces derniers jours, hier et aujourd'hui encore, Jean-Luc Mélenchon et ses proches parlent d'un procès politique. Dans ce contexte, ce chiffre qui n'est pas mince, c'est un sondage Odoxa Dentsu Consulting. 40% des Français penseraient que Jean-Luc Mélenchon et ses 5 camarades jugés Bobigny, 40% pensent qu'ils subissent un procès politique.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
À menace mondiale, grève mondiale, nouvelle journée de mobilisation de la jeunesse pour le climat à travers la planète ce vendredi. Nous allons dans la manifestation parisienne dans un instant. D'abord le tour du monde, des premières heures de manifestation en raison du décalage horaire, mais aussi à cause de l'ampleur de la menace. Grosse mobilisation en Océanie, Nathanaël Charbonnier, inquiétude réelle, ambiance festive.
En Australie, on parle déjà de plus de 300 000 manifestants dans tout le pays. 100 000 personnes à Melbourne, 80 000 à Sydney, notamment des jeunes. Les cortèges sont impressionnants, il se faut en musique, avec à chaque fois des prises de parole pour alerter sur la situation. Il est question du réchauffement climatique qui arrive et du changement climatique qui lui est bien réel. Mais l'Australie n'est pas la seule dans la bataille. En Thaïlande, par exemple, 200 jeunes ont fait irruption au ministère de l'Environnement pour faire un dying, c'est-à-dire simuler leur propre mort en s'allongeant sur le sol. Le monde qui se mobilise et des personnalités politiques qui prennent la parole et invitent à agir. C'est le cas du maire de Londres, Sadiq Khan.
I'm standing in solidarity.
Dans une interview filmée, il explique se présenter pour soutenir tous ceux qui ont décidé de participer à cette journée mondiale pour le climat. Même tonalité pour la candidate à la primaire américaine, Elizabeth Warren, qui, dès hier, appelait à manifester.
This is a moment when young people have stepped up, when their elected officials.
Et d'expliquer l'importance pour les jeunes de se mobiliser alors que leurs élus ont échoué depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et Elizabeth Warren d'appeler le plus grand nombre à manifester pour cette journée, la première d'une longue série, puisqu'une autre journée mondiale est déjà annoncée pour vendredi prochain.
En France, les rassemblements ont lieu à Dijon, Bordeaux, Annecy, Bayonne, Montpellier, Lille et dans bien d'autres villes. À Paris, ça se passe à l'Est, place de la Nation, c'est là que vous vous trouvez. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour Bruno.
Est-ce que la mobilisation, Sandy, est importante ?
Écoutez, pour l'instant, la place de la Nation est clairsemée, mais les participants sont en train de continuer d'arriver. Des visages jeunes et déjà des vieux routiers des marches pour le climat, comme Suzanne, 15 ans.
Il n'y a pas eu trop de questions, en fait. C'était pas ma première marche. Dès qu'on a eu la date, on savait qu'on allait venir.
Et cette lycéenne explique qu'elle ne fait pas que marcher.
Moi, dans ma famille, on a vraiment essayé cette année, en une année, de venir faire beaucoup plus attention à notre manière de vivre au quotidien. Donc, avec la voiture électrique, les tri des déchets, plein d'actions, j'en suis très fière aujourd'hui au quotidien.
Ici, on croise des t-shirts siglés, la jeunesse pour le climat, des drapeaux Europe Écologie des Verts, les banderoles CGT, une poignée de gilets jaunes. On croise aussi quelques parents comme Virginie, elle accompagne sa fille, 13 ans, elle lui fera un mot d'absence pour le collège.
Je trouve que c'est beaucoup plus important ce qu'on fait ici. Je trouve que l'enseignement ne va pas être à la hauteur des enjeux qui vont peut-être attendre ma fille.
Toi, t'es en quelle classe ?
En quatrième. Le dérèglement climatique, je sais très bien qu'à la fin, on va tous y passer. Du coup, j'ai pas envie que ça arrive, ça me stresse.
Le défilé va démarrer. On nous promet sur le parcours une action de désobéissance civile. Ce sera la surprise du chef.
Merci Sandy Dauphin, on continuera d'entendre les arguments, les paroles, les cris des manifestants à partir de 13h30 dans La Terre au Carré avec Mathieu Vidard, l'émission La Terre au Carré en direct de cette manifestation de la Place de la Nation. Une des particularités de cette nouvelle journée de mobilisation pour le climat, c'est que des entreprises disent vouloir s'associer à la mobilisation. Patagonia, l'entreprise américaine de vêtements, ferme ses magasins 2 jours pour que ses salariés puissent aller manifester. SodaStream est également fermé aujourd'hui. Alors est-ce que c'est du greenwashing, opération de communication par laquelle on fait semblant d'être écolo, ou bien du sérieux? Arrêtons-nous sur le cas d'Amazon, le géant de la distribution. Le patron Jeff Bezos promet que son entreprise atteindra la neutralité carbone en 2040.
On ne peut arriver à cela qu'en collaborant avec les autres grandes entreprises. Et nous pensons qu'Amazon a un rôle de modèle, d'exemple. Si nous, on atteint cet objectif, alors tout le monde peut y arriver.
Anyone can do this. Propos recueillis par notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Bonjour Manuel Ruffel.
Bonjour.
Alors, si Amazon y arrive, ce sera un tour de force. On estime qu'il émet l'équivalent de 10% des émissions annuelles de dioxyde de carbone de la France. Quelles activités d'Amazon produisent autant de gaz à effet de serre ?
Alors, il y en a deux essentiellement. Les transports d'abord, c'est quand même une société qui a fait la promesse de livrer au plus près et au plus vite le consommateur. Donc, avions, bateaux, transports routiers, tout cela évidemment a un impact sur le climat. Amazon, c'est 10 milliards de colis livrés par an. Et puis, il y a ces fermes de serveurs informatiques d'Amazon, puisqu'il faut bien les stocker et les gérer, toutes ces données. Et tout ça est très énergivore, en énergie fossile, bien sûr. Amazon reconnaît au total produire par an plus de 44 millions de tonnes d'équivalent CO2.
Alors, comment réduire l'empreinte carbone?
Ben voilà ce que promet Jeff Bezos. Des camionnettes électriques. Amazon lance la plus grosse commande de camionnettes électriques jamais faite, 100 000 au total. De l'énergie renouvelable, Amazon s'engage à atteindre 80% d'énergie renouvelable d'ici 2024 et 100% d'ici 2030. Et ce qui reste doit être compensé, notamment en plantant des arbres qui absorbent le carbone de l'air pour arriver à un bilan zéro. C'est l'objectif affiché.
Alors, cet engagement est-il sincère? Les ONG de défense du climat ont de très gros doutes. Écoutez Alma Dufour des Amis de la Terre.
Pendant qu'il vous dit qu'il va acheter 100 000 véhicules électriques, Amazon est en train de développer ses propres Boeing pour livrer par avion le plus rapidement possible les colis. Il n'y a pas d'avion électrique aujourd'hui, il le sait très bien. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Il va faire des petits investissements qui lui coûtent pas non plus énormément pour donner une image de progrès. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'en fait, c'est très 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 loin du compte. Et en fait, aujourd'hui, clairement, les entreprises comme Amazon, elles le savent, elles sont incompatibles avec le changement climatique parce que la seule vraie solution pour lutter contre le changement climatique, c'est de baisser leurs ventes, en fait, ce qu'elles ne voudront jamais faire. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et tous les petits investissements qui sont faits seront cosmétiques par rapport à la gravité de la situation.
Voilà pour ce dossier mobilisation pour le climat, et je vous rappelle le rendez-vous avec la Terre au carré à 13h30 dans la manif de Nation. Et puis parfois la lutte pour la protection de la nature tourne à la violence. Un groupe d'antispécistes, ces militants radicaux de défense des animaux, un groupe jugé aujourd'hui à Évreux, procès pour vol et violation de domicile. Il s'était introduit dans des élevages de l'Orne, de l'Eure et de l'Eure et Loire pour libérer, entre guillemets, des animaux. La commission qui travaille sur les agressions sexuelles de mineurs au sein de l'Église catholique ces dernières décennies a beaucoup de dossiers à traiter. Son président Jean-Marc Sauvé fait un premier bilan. 2000 appels téléphoniques en 3 mois. On va détailler tout cela avec vous, Julie Pietri. Jean-Marc Sauvé se dit surpris par l'afflux d'appels les premiers jours, impressionné par la disponibilité des victimes à parler. Et tout cela, ajoute-t-il, révèle beaucoup de souffrance.
Une souffrance qu'il a pu mesurer à travers ses appels, des mails, des courriers aussi. Ces témoignages, raconte Jean-Marc Sauvé, ne laissent guère de doute sur la gravité et l'authenticité de ce qui s'est passé. Et donc cette commission, qui se veut indépendante, mais qui est financée en partie par la Conférence des évêques de France, va signaler une quinzaine de signalements bientôt au parquet pour des faits non jugés et qui ne semblent pas prescrits. Qui sont les personnes qui appellent? Plus d'hommes que de femmes, plus de 50 ans souvent. Et ces témoignages viennent de partout en France, même si visiblement les départements très urbanisés, les métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, le nord de la France aussi sont très représentés. Pas mal de témoignages également dans l'ouest de la France, imprégnés historiquement par le poids de l'Église catholique. Cette commission qui s'est fixée comme but de recenser un maximum d'informations avant juin prochain, va maintenant se lancer dans un tour de France cet automne, dans les paroisses notamment, pour mieux faire connaître son travail.
Et Jean-Marc Sauvé, ce soir sur France Inter, invité de Claire Servageant, c'est à 18h20 dans une semaine en France. 1175 bacheliers sont encore sans affectation à l'issue de la procédure Parcoursup, c'est un tout petit peu plus que l'année dernière, rapporté au nombre de diplômés, essentiellement des candidats issus des filières technologiques ou professionnelles. Il n'y a donc pas de progrès entre la première et la deuxième année de Parcoursup. Le parquet de Paris, le pôle santé, va se mettre au travail après la révélation de ce que l'agence du médicament appelle un essai clinique sauvage. Dans l'abbaye de Sainte-Croix, près de Poitiers, 350 malades, Alzheimer, Parkinson, sur lesquels on testait, en dehors de tout cadre légal, 2 molécules proches de la mélatonine. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Et c'est mené par le fonds Josepha, son vice-président. C'est le professeur Henri Joyeux qui rejette cette expression d'essai clinique. Ce médecin, Véronique, a suscité beaucoup de controverses avant même ces révélations.
Oui, ce cancérologue de Montpellier, aujourd'hui retraité, est devenu depuis quelques années la bête noire du ministère de la Santé. L'homme, effectivement, de pas mal de controverses. Controverses sur la consommation de produits laitiers, d'abord. Henri Joyeux trouve qu'on en consomme trop. Controverses sur la sexualité, l'homosexualité. Henri Joyeux est de sensibilité traditionnelle, on va dire. Controverse enfin et surtout sur les vaccins. Henri Joyeux est à l'origine de 2 pétitions publiées en 2014 et 2015. Il s'est opposé notamment au vaccin dit hexavalent qui protège contre 6 affections à la fois. Il s'est opposé aussi à l'obligation vaccinale. Le médecin s'est toujours défendu d'être un anti-vaccin, mais ses détracteurs l'accusent d'attiser la défiance. En février 2018, lors d'une conférence, il revenait ainsi sur un possible lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme, un lien pour pourtant démenti récemment par une très grande étude danoise.
En Angleterre, depuis très longtemps, les pédiatres
avant de faire vacciner un enfant contre ces trois maladies, rougeole, oreillon et rubéole, imposer un examen neurologique de l'enfant parce qu'il savait qu'il y avait des risques. Et on comprend les parents qui ont un enfant autiste qui se posent la question et qui veulent avoir la réponse. Nous avons posé officiellement et publiquement la question à Madame Buzyn. Elle répond, passé, il n'y a rien à voir. C'est peut-être pas si sûr que cela.
Pour ses différents propos sur les vaccins, Henri Joyeux a été radié de l'Ordre des médecins en 2016. La radiation a ensuite été annulée par une instance supérieure, mais le Conseil d'État vient à son tour de rejeter cette annulation. Le feuilleton n'est donc pas tout à fait terminé et la menace de radiation toujours d'actualité.
Merci Véronique Julia. D'autres éléments de portrait du professeur Joyeux, c'est à trouver sur franceinter.fr. Nous sommes en présent en ligne avec l'invité du journal de 13h. Bonjour Anne-Marie Cousin.
Bonjour.
Maire de Torigny-les-Villes, 4400 habitants dans la Manche. Vous êtes élue depuis 1994 et aujourd'hui vous êtes également présidente de l'Association des maires de la Manche. Alors nous vous avons invité, madame, pour commenter les annonces faites par le Premier ministre ce matin pour les villages, les petites communes, cet agenda de la ruralité présenté par Édouard Philippe. Alors on va détailler quelques mesures et je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'abord des mesures de soutien au commerce local, possibilité d'exonération fiscale, l'État compensera. Le commerce, c'est la première priorité pour relancer la vie dans un village, madame ?
Oh, c'est une des priorités. Il se trouve que Torigny-les-Villes a de nombreux commerces et effectivement, avec l'évolution des pratiques en ligne, on voit les difficultés que ressentent les commerçants. C'est un facteur d'attractivité important, oui.
Et qu'est-ce qui les fait rester ? Est-ce que des mesures d'exonération, de simplification administrative, ça peut encourager un boucher, un café, un boulanger à rester chez vous ?
Ah, écoutez, c'est très important parce que déjà nous ressentons, nous, dans les communes, en tant que maires, ces complexités administratives et réglementaires. Et je pense qu'en France, on est champion pour les complexités administratives et la multiplicité des textes réglementaires. Donc, indéniablement, cette simplification aidera. Quand je disais que c'est un facteur d'attractivité, un commerce, c'est aussi du lien social. Oui. Parce que aujourd'hui, les citoyens, surtout dans les zones rurales, ils ont besoin de liens sociaux.
À propos de liens sociaux, parmi les mesures présentées, il y a la remise en circulation des licences 4 hein, qui permettent aux débiteurs de boissons de vendre de l'alcool. Il faut vendre de l'alcool pour relancer la vie dans les campagnes ?
Non, là c'est un côté un peu anecdotique, mais vous savez, toutes les fêtes de village ont une buvette et effectivement, il faut cette licence 4 pour permettre au moins de vendre de la bière, si vous voulez.
Je le dis en souriant, mais c'est un vrai sujet.
Oui. C'est pas un sujet éminemment important, mais ça peut aider aussi, oui, si on veut.
Alors, les commerces et la jeunesse également. Vous, pour défendre la vie dans une commune comme la vôtre, on a parlé des commerces, il y a l'école et il y a la jeunesse, c'est-à-dire ces adolescents ou ces jeunes adultes qui ne peuvent pas rester parce qu'ils doivent aller étudier ailleurs. Ça aussi, c'est une vraie source de souffrance et d'hémorragie pour les villes comme la vôtre.
Alors, c'est vrai que c'est une source de... C'est un facteur négatif dans une commune de voir ces jeunes partir. Mais vous savez, les jeunes qui partent, c'est simplement le facteur emploi qui joue. Ils ne partent pas parce qu'ils n'ont pas un attachement à leur commune. Ils partent vraiment pour trouver un emploi. Et dans la ruralité, on sait que les emplois sont moins denses que dans les métropoles.
Et du coup, Madame Cousin, la création de services civiques dans ces territoires ruraux, une plateforme qui regrouperait les différents services aux jeunes au niveau national, tout cela, de votre point de vue, est suffisant pour les inciter à rester et à trouver des métiers sur place ?
Alors, ce sera forcément pas suffisant, mais on peut pas dire que ça n'aille pas dans le bon sens. Vous voyez, je vais avoir un état d'esprit et une réponse un peu modulée, dans la mesure où c'est quand même intéressant. On peut pas jeter la pierre à cette volonté de l'État d'essayer d'améliorer les choses, mais ne soyons pas dupes. Hein. C'est pas un service civique qui va retenir la plupart des jeunes, surtout ceux qui veulent faire des études un peu plus poussées.
Merci Anne-Marie Cousin, maire de Torigny-les-Villes, 4400 habitants dans la Manche, d'avoir répondu à nos questions et toutes ces mesures seront mises en musique, comme on dit, progressivement au fil des mois. Eh bien voilà, c'est parti. C'est la première fois de son histoire que la Coupe du Monde de rugby se dispute en Asie, au Japon. 12 stades de Sapporo au nord à Kumamoto au sud. 7 heures de décalage horaire avec Tokyo où la cérémonie d'ouverture s'est achevée il y a quelques minutes. Il y a un peu moins d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, à 12h45. Le premier coup de botte, le premier match Japon-Russie. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
Fanny, avec toute l'équipe de France Inter sur place, vous nous ferez vivre ce mondial. Alors, est-ce que les premières images, les premières heures, les premières déclarations, est-ce que tout ça est enthousiasmant ?
Il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, je me trouve pas directement au stade, mais dans le quartier de Tokyo où on vit la nuit. Et là, eh bien, tous les bars, les moindres bars où il y a des télévisions, parce qu'il y en a pas beaucoup, pas partout, eh bien, on se presse. Les Japonais, dès qu'ils quittent le bureau, vont voir le match de rugby et ils s'enthousiasment. Beaucoup d'émotions. Je vous le disais au moment, bien sûr, des hymnes. Il y avait des touristes étrangers qui continuaient à parler pendant l'hymne japonais et il y a eu des chutes. Ils voulaient en profiter au maximum. Pour eux, c'est bien sûr un moment extrêmement important. Et là, c'est plutôt des cris de stupeur, hein, parce qu'ils ont peur, ces Japonais, de perdre cette rencontre face à la Russie. Donc, notamment lors du premier essai des Russes, on a entendu des cris un petit peu partout. C'est un territoire très patriotique. Ils connaissent pas forcément le rugby. Ils ne s'en cachent pas. Hein. Certains m'ont demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi là, tout le monde crie ?» Mais ils voient bien sûr le compteur des points. Et quand le Japon revient sur la Russie, ils s'extasient. Et il s'exclame, et je peux vous dire que la bière coule à flot aussi ici.
Et pour l'instant, il y a 7-5 pour la Russie face au Japon. Rappelons que les tenants du titre sont en noir dans cette Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande, les All Blacks, trois fois vainqueurs, à nouveau favoris cette année. Outsiders sérieux, les Anglais, les seuls Européens à avoir gagné la Coupe une fois. Demain, l'entrée en lice des Bleus face à l'Argentine à 9h15. Décalage horaire oblige, les matchs se joueront tôt dans la journée lors de ce mondial. Autre grosse affiche du week-end, 11h45 demain, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Voilà provisoirement pour le rugby. Les autres rendez-vous sport du week-end à retenir, notamment dès ce soir en foot. La 6e journée de championnat commence, Strasbourg-Nantes à 20h45. Les mesures pour les gilets jaunes vont faire des trous dans le budget de la sécurité sociale. On tablette initialement sur un excédent. Eh bien, ce sera un déficit, 5 milliards. Réaction d'Olivier Véran, le rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour l'instant, l'État refuse de compenser le manque à gagner.
La sécu à la base est quasiment à l'équilibre, c'est ce qu'on disait l'année dernière. Mais depuis l'année dernière, il y a eu le pack des mesures gilets jaunes pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et donc ces mesures ont un coût. En fait, les relations entre l'État et la sécurité sociale répondent à des règles qui sont fixées dans le cadre de la loi, qui veulent que normalement l'État compense à la sécurité sociale les pertes de recettes, les pertes de cotisations liées à des décisions de l'État. Donc cette règle, elle a toujours été appliquée. On avait discuté de les alléger dans la mesure où la sécu était partie pour être à l'équilibre, voire excédentaire. Maintenant que la sécu est déficitaire du fait des mesures des gilets jaunes, eh bien moi je demande à ce qu'en retour l'État fasse ce geste pour la sécu. L'État est le seul gestionnaire de son budget, alors que le budget de la sécurité sociale fait appel à une gestion par les différentes caisses dans le domaine de la famille, de la santé, des retraites, caisse vieillesse, etc. Et donc ce choix de savoir si les mesures d'urgence gilets jaunes vont être imputées à l'État ou à la sécurité sociale va avoir ensuite des conséquences dans la façon où gérer la sécurité sociale ou de gérer la dette de l'État.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Est-ce la nouvelle formule ? Est-ce le moment ? Est-ce l'invité ? Xavier Bertrand. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde devant. Vous avez la parole, l'émission politique de France 2 hier soir. 1 300 000 téléspectateurs, France 2 derrière TF1, mais aussi derrière France 3 et M6. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. En cette fin septembre, il est temps de faire les vendanges. Alors, nous nous sommes tournés vers un camarade bourguignon. Bonjour Stéphane Conchon.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
France Bleu Bourgogne en duplex de Dijon. Merci aux techniciens qui nous permettent de vous entendre très clairement. Alors, vous avez appris à vendanger au domaine Henri Magnien, Gevrey-Chambertin. Un petit mot du domaine pour savoir où vous avez mis les bottes, Stéphane.
On est à une vingtaine de kilomètres de Dijon, un domaine où l'on fait du vin depuis 12 générations. Depuis 1656, imaginez ça en fait des vendanges quand même. Il s'agit essentiellement de premier cru en plus là-bas. Oui. Le raisin c'est du pinot noir pour faire du vin rouge.
Oui.
Et j'y suis allé passer une matinée complète pour voir ce que c'est que d'avoir un sécateur en main.
Bon, pour l'instant, j'ai du mal à vous plaindre. Alors, on va voir la suite. Bien vendanger, effectivement, c'est d'abord le sécateur pour bien cueillir. Petite leçon avec le patriarche du domaine. Vous êtes avec François Magnien.
Voilà le sécateur.
Oui.
Outil indispensable. Et pour couper le raisin, ça c'est un beau pied typique, il faut pas couper dans la partie marron parce que c'est très difficile. Au bout d'une journée, dans la main, ça fait beaucoup plus mal. Donc vous prenez le raisin, vous coupez la partie verte,
comme ça,
mettez dans le seau, tranquillement, sans s'énerver. vous coupez comme ça. Après, avec un peu d'habileté, vous pouvez couper 2-3 raisins et les prendre en même temps, ce qui fait après l'habileté la vitesse.
Éviter de se couper les doigts, évidemment.
Éviter de se couper les doigts.
On se coupe, bon, on coupe des vendangeurs.
Non, plus trop, c'est des sécateurs maintenant qui sont dits de sécurité, où on se pince et on ne se coupe pas, théoriquement. On peut se couper, mais enfin, il faut vraiment insister. Et ben voilà, un premier pied de fait. On peut raser ça.
Déjà.
Donc on passe au pied suivant.
Et ça découpe, bravo Stéphane Conchon. Alors vendanger, donc c'est coupé, ça on a vu, c'est aussi porté, c'est bien ça, hein.
Ouais, et les coupeurs, ils n'ont pas tout à fait la même corpulence que les porteurs, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois, alors vous revoilà.
Les coupeurs sont un peu plus secs.
C'est ça, et les autres un peu plus costauds. Domaine Magnier, on y retourne. Là, vous avez le rôle du porteur de caisse. J'ai envie de dire bon courage, camarade.
Ah, c'est des caisses qui font bien pleines 18 kilos. Il y a quelques années, voire dizaines d'années, les caisses étaient en bois. Alors imaginez une caisse en bois qui tient plutôt 20-25 kilos de raisins. La caisse en bois elle-même, une fois qu'elle est mouillée, elle pèse déjà toute seule 5 kilos. C'était épuisant.
Donc cette caisse-là, par exemple... Ah oui, non, mais attendez, il faudrait... Je l'ai sur l'épaule, celle-là.
Oui. Alors, je vais me déplacer. Je prends la caisse. Main gauche au-dessus, main droite dessous. Là.
Voilà.
Donc ça, c'est, jusque-là, tout va bien.
Et d'accord. Et c'est ça que vous appelez de la promenade, alors?
Un beau camion.
Bon, bravo Stéphane Conchon, vous en êtes
remis.
Vous en êtes remis, ça va.
Ça va, un léger mal de dos, mais ça, j'en ai pas porté 40 non plus. Hein.
Impeccable, je précise que j'ai testé, vous le faites tous les dimanches de 10h à 11h pour votre Radio France Bleu Bourgogne. L'émission s'appelle Il faut bien une première fois. Alors vous avez conduit un 38 tonnes sur les routes de Bourgogne, récolté du miel sans vous faire piquer par les abeilles, vous avez piloté un planeur et on trouve le lien vers cette émission sur le site francebleu.fr en tapant Il faut bien une première fois. À bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Un plaisir pour le week-end, outre les vendanges, le nouveau disque de Stéphane Escher. Nouvel album, Mathieu Culeron, vous l'avez écouté.
C'est en pleine guerre juridique avec sa maison de disques que Stéphane Escher se lance dans ce nouvel album. Le musicien est prêt à tout pour déstabiliser son label, y compris faire des titres de 30 secondes pour qu'on puisse les écouter gratuitement sur iTunes. Finalement, ce sera ce Homeless Songs qui sortira, un disque exigeant, profond, personnel, avec des formats variés, et des textes de Philippe Bian pour le français et ceux de Martine Souter pour l'allemand. La colère d'Escher s'est finalement transformée en créativité.
Il y a vraiment eu une vraie violence qui m'a frappé par des avocats, des trucs comme ça, où j'ai dit, mais mon Dieu, ils sont méchants. Ça m'a même rendu très créatif, cet emmerdement, finalement. Parce que je me disais, ok, la maison disque veut plus vraiment de moi. On a commencé à parler des chansons qui n'ont pas de place dans les bacs ou dans les médias ou dans les maisons disques. Oui, Homeless Songs rassemblés sur ce fameux disque-là qui sort.
À tout. Au fond de mort.
Les grandes ballades folk succèdent aux ritournelles au piano. Stéphane Escher qui convoque même Axel Red et Mio Sec pour une chanson qui résume à elle seule toute l'industrie du disque. La fête est finie.
On a vu des hommes prendre feu.
Et l'album s'appelle Homeless Songs et Stéphane Escher sera en concert à la Maison de la Radio et sur France Inter le 22 octobre. Avant de retrouver Mathieu Vidard en direct de la Place de la Nation, le casting du journal de 13h cette semaine à la technique Clément Vuillet, Tristan Gratalon et Loïc Frapsos, à la rédaction en chef Anaïs Feuga, Estelle Schmitt et Lionel Thompson. Merci également à Hélène Barbet, Sylvain Lesage et Swad Bellani.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac.
On profite du soleil encore aujourd'hui, quasiment partout. Il est un peu plus contesté du sud-ouest au sud des Alpes. Sur le Languedoc-Roussillon, les Alpes du Sud, on n'est pas à l'abri de quelques averses. On ajoute un risque d'orage sur les Pyrénées, le Pays Basque et la montagne Corse. On n'oublie pas le vent, un petit vent de nord-est encore sensible au nord. Et puis un vent d'autant de l'Aude jusqu'au midi toulousain, jusqu'à 80 km à l'heure. Côté thermomètre, ça monte. On repasse au-dessus des moyennes de saison partout, avec 21 à 28 degrés sur la moitié nord, 25 à 31 en allant vers le sud. Ce week-end, le temps va changer. On surveillera tout particulièrement les pluies orageuses sur le sud-est. Elles arriveront dès demain sur le Languedoc-Roussillon. Et puis dimanche sera une journée bien arrosée quasiment partout.